Mélard.
Merci Nemo Ampis, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RFI, Radio France Internationale, prochain journal. Dans 20 minutes, à la une, la République démocratique du Congo et les dernières évolutions de la situation à Goma et à Kisenyi, ville frontalière de Goma côté rwandais. Nous serons en ligne avec Lucie Mouillot à 7h. La RDC et les craintes des organisations humanitaires, on en parle dans 5 minutes avec notre grand invité Afrique, Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint de l'ONU en République démocratique du Congo, également coordonnateur humanitaire. Entretien avec Guillaume Thibault à suivre, mais d'abord le sport. Bonjour Florence Valmé.
Bonjour Andréane.
Alors, du football à la une de ce journal des sports et la CAN tout d'abord, et son tirage au sort effectué, on en parlait lundi soir à Rabat. Les supporters des différentes équipes qualifiées y vont de leurs commentaires, notamment en Côte d'Ivoire.
Oui, les éléphants qui se trouvent dans le groupe F avec le Gabon, le Mozambique et l'un de leurs rivaux préférés, le Cameroun. Un adversaire qui ne pouvait pas laisser indifférents les supporters ivoiriens. Confirmation à Abidjan avec Youen Gourlet.
En Côte d'Ivoire, le tirage au sort a réveillé la vieille rivalité qui existe entre les Ivoiriens et les Camerounais. Deux pays qui se sont maintes et maintes fois rencontrés lors des différentes compétitions. À Abidjan, l'ambiance est à la taquinerie, comme avec Aboubakar Soumaoro, supporter des éléphants.
Le Cameroun ne nous effraie pas. Au contraire, depuis qu'il y a eu le tirage au sort, les Camerounais ne dorment plus.
Mais les Camerounais, ce sont nos enfants, ce sont nos petits. C'est comme une famille.
Une vraie famille, puisque les deux pays se surnomment même la belle famille. Un surnom qui date des années 2000, lorsque l'attaquant camerounais Samuel Eto'o s'est marié avec l'ivoirienne Georgette Tralou. Les deux pays cultivent leur lien culturel, leur fraternité et leur rivalité sur le terrain. Pour le supporter ivoirien Bill Wallace, il faudra forcément se méfier des Camerounais, 5 fois champion d'Afrique et capable du meilleur comme du pire.
On se rappelle une année où Eto'o a dit qu'il rentrait en Côte d'Ivoire pour faire dormir. Les Ivoiriens vont dormir à 19h. Effectivement, on a dormi à 19h et ça nous a fait mal. Donc cette rivalité-là, elle existe. On doit en tenir compte. Quand le Cameroun joue contre la Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Mon souhait le plus absolu, c'est qu'on doit les battre et sortir tête haute de cette poule-là.
Ce tirage au sort portera peut-être chance aux champions d'Afrique en titre. La dernière fois que la Côte d'Ivoire a rencontré le Cameroun en phase de poule d'une CAN, c'était en 2015. Cette année-là, les éléphants avaient battu les lions indomptables et avaient même remporté leur deuxième étoile africaine. Youen Gourlet, Abidjan. RFI.
Le match Côte d'Ivoire-Cameroun aura lieu le 28 décembre à Marrakech. La CAN, je le rappelle, débutera le 21 décembre.
Avant la CAN, il y aura le CHAN, initialement prévu en février. Il a été reporté au mois d'août et les nouvelles dates ont été dévoilées.
La compétition aura lieu du 2 au 30 août prochain au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. 19 pays sont attendus pour la phase finale. Il en manque encore deux. Un deuxième tournoi de qualification entre 7 nations doit avoir lieu, mais pour le moment, il n'y a pas de date annoncée.
Le foot, toujours avec la 8e et dernière journée de phase de Ligue de la Ligue des Champions. 18 matchs au programme et notamment Brest qui reçoit le tenant du titre, le Real Madrid.
Une affiche de gala pour le stade brestois, 13e au classement et déjà assuré d'accéder à minima au barrage. Les hommes d'Éric Roy ont un double objectif, rester devant leur prestigieux adversaire et obtenir leur meilleur classement final. Si la qualification directe pour les 8e de finale semble difficile d'accès, ils peuvent encore hériter d'un barrage accessible. Alors pourquoi ne pas parler d'exploit? Après tout, Lille a bien battu le Real cette année, l'international bissau-guinéen de Brest, Mama Baldé.
Oui, c'est possible. On va faire qu'est-ce qu'on peut contrôler. Qu'est-ce qu'on peut contrôler, c'est regarder en nous-mêmes. Et ça va être un bon match, même pour nous. Je trouve que c'est des bons joueurs en face. Et ça va nous permettre de montrer notre capacité aussi d'aborder le match. Et je trouve que l'équipe est confiante pour affronter le match contre le Real.
Propos recueillis par Thomas de Saint-Léger, coup d'envoi de Brest-Real Madrid à 20h TU. J'en profite justement pour vous dire que RFI se met en mode intégral. Vous pouvez suivre notre soirée spéciale dès 19h40 TU.
Merci Florence Valmé, vous revenez tout à l'heure à 7h13.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
La République démocratique du Congo, toujours à la une, et un calme précaire qui, selon nos informations, règne toujours ce matin à Goma, la capitale du Nord Kivu, province de l'Est de la RDC, en proie à de violents affrontements ces derniers jours entre membres du M23 soutenu par le Rwanda et armée congolaise aidée de ses alliés. Selon l'AFP qui a compilé des chiffres fournis par les hôpitaux, ces violences ont fait pour l'heure près de 100 morts et au moins 1000 blessés. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit cette en urgence. Hier encore, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, appelle à un cessez-le-feu immédiat en RDC. Vous suivez la situation en direct sur notre live, sur notre site RFI.fr. Les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, donc Burkina Faso, Mali et Niger, ne font plus partie de la CEDEAO. Un an après l'annonce de leur sortie, ces trois pays sont désormais officiellement en dehors de la communauté économique ouest-africaine, même si celle-ci leur laisse 6 mois pour revenir sans conséquence sur cette décision. 376 000 Palestiniens de retour dans le nord de la bande de Gaza. En 48 heures, l'OCHA, le Bureau des Affaires Humanitaires de l'ONU, dit s'appuyer sur les chiffres de plusieurs organisations qui ont installé des points de comptage dans l'enclave palestinienne. En Syrie, une délégation russe a rencontré le nouveau pouvoir à Damas. Selon un communiqué de la nouvelle administration syrienne, les discussions ont porté, je cite, sur des questions clés, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Et puis en Inde, une bousculade meurtrière dans le cadre du gigantesque pèlerinage de la Kumbh Mela a fait 40 morts. Le chef de l'opposition dans le pays met en cause la mauvaise gestion des autorités. Goma en RDC, on le disait, où un calme précaire règne encore ce matin. La capitale provinciale du Nord Kivu, théâtre d'affrontements entre le M23 soutenu par le Rwanda et les forces armées congolaises. Depuis plusieurs jours, la violence déferle dans les rues de Goma et inquiète le monde, l'ONU notamment. Le Conseil de sécurité s'est d'ailleurs à nouveau réuni hier. Représentant spécial adjoint de l'ONU en RDC, Bruno Lemarquis est également coordonnateur humanitaire. Il est notre grand invité Afrique ce matin. Il répond à Guillaume Thibault.
Bonjour Bruno Lemarquis.
Oui, bonjour.
Il y a des tirs, des affrontements, sans discontinuer depuis dimanche dans Goma. Des rapports des Nations Unies pointent la saturation dans les hôpitaux et de nombreux cadavres en ville.
Donc la situation est très très grave, la situation est extrêmement volatile. Il y a encore beaucoup de tirs, y compris à l'arme lourde. Les services de base à Goma sont toujours très gravement perturbés, l'eau, l'électricité. Les hôpitaux sont débordés. Ils peinent vraiment, ça fait plusieurs jours qu'ils étaient débordés, mais là c'est encore pire ces dernières heures. Donc ils n'arrivent plus à gérer l'afflux des blessés, malgré tout l'appui des partenaires de MSF, du CSR, etc. Surtout des blessés par balle, des blessés par éclat d'obus, donc beaucoup de blessés graves. En effet, il y a beaucoup de cadavres dans les rues, beaucoup de personnes tuées. Il y a eu des bombardements également sur certaines infrastructures civiles, notamment une maternité, la maternité de la Charité. Des bombardements qui ont touché certains campements des acteurs humanitaires.
C'était la crainte des organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme. Des combats en pleine ville, des combats dans les rues de Goma, qui compte 1 million d'habitants et au moins 700 000 déplacés.
Ces combats en pleine ville rendent la situation catastrophique. Le fait que, bon, il faut voir au niveau des chaînes de commande, il y a beaucoup d'acteurs sécuritaires des deux côtés, donc il y a beaucoup de problèmes de coordination entre les forces, etc. Mais le fait que, après ces quelques jours de combat, les chaînes de commande ne sont plus aussi solides, ça renforce le niveau de risque également.
Vous indiquez dans un communiqué que près de 300 000 déplacés ont quitté les camps autour de Goma depuis dimanche et ces déplacés sont en ville ou tentent de fuir.
Il y a beaucoup de mouvements de déplacés. Je parle de la périphérie de Goma où il y avait 700 000 déplacés avant ces derniers jours. Une grosse partie de ces déplacés ont dû se rapprocher de la ville de Goma à cause des combats dans la périphérie. Donc beaucoup de mouvements de population. On nous a rapporté un certain nombre de pillages sur des installations, donc des agences humanitaires des Nations Unies et des ONG. Donc il y a eu du pillage de nourriture, de vivres d'urgence et de stocks de médicaments. Donc ça, c'était vraiment les stocks humanitaires pour appuyer les déplacés notamment.
La situation sécuritaire bloque pour le moment toute action sur le terrain et la distribution de l'aide humanitaire est donc quasiment à l'arrêt.
C'est-à-dire que nos collègues humanitaires ne peuvent pas travailler en ce moment puisque c'est zone de guerre. Donc on fait le dos rond. Tout le personnel non essentiel a quitté la ville de Goma pour qu'on puisse se concentrer sur les tâches critiques de protection des civils et d'action humanitaire. Mais là, les collègues ne peuvent pas vraiment travailler puisque tout le monde est chez soi, terré à la maison ou dans des bunkers ou dans les bureaux à cause des combats. Il faut la fin des hostilités pour que les activités humanitaires d'urgence puissent reprendre. J'en profite pour lancer un appel puisque ça va prendre beaucoup d'argent rapide. Il va falloir vraiment qu'on soit financé pour pouvoir appuyer, pour apporter toute cette aide humanitaire d'urgence dès la fin des hostilités.
Vous interpellez également les acteurs du conflit pour un arrêt immédiat des hostilités, pour permettre justement un accès à l'aide pour la population. Et vous rappelez dans vos communiqués que le respect du droit humanitaire est une obligation.
D'une manière générale, ce qu'on demande comme communauté humanitaire, c'est la fin immédiate des hostilités. La fin immédiate des hostilités, donc ça c'est C'est également lié au processus politique et aux pressions qui doivent être faites sur les belligérants. Sur la RDC aujourd'hui, c'est absolument critique que nous passons des mots aux actions. Nous demandons le respect du droit international humanitaire qui est vraiment violé à grande échelle. Nous demandons l'arrêt des tirs à l'aveugle dans les zones urbaines qui font beaucoup de victimes. Nous demandons l'ouverture de corridors humanitaires, la réouverture de l'aéroport, le passage des frontières pour les gens qui doivent bouger à cause du niveau de danger. Voilà un peu la situation. Donc c'est très dangereux, c'est très volatile. Il faut vraiment la fin des hostilités.
Merci Bruno Lemarquis.
Merci beaucoup.
Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint de l'ONU en RDC également, coordonnateur humanitaire, entretien avec Guillaume Thibault, à retrouver sur notre site RFI.fr. La République démocratique du Congo peut être liée au taux très bas du cobalt, métal clé des batteries. La RDC, où le groupe chinois CEMOC annonce une production aussi importante cette année qu'en 2024. C'est notre chronique matière première ce matin avec Marie-Pierre Olfan.
Une production de 110 000 tonnes, voire de 120 000 tonnes de cobalt, c'est ce que le chinois CEMOC annonce pour cette année, soit l'équivalent des volumes de 2024. Une année où le groupe a produit bien plus qu'il ne pensait, à la surprise de nombreux acteurs. Son ambition annuelle avait été atteinte en 9 mois au lieu de 12 grâce à la montée en puissance de deux mines en République démocratique du Congo. Le problème, c'est que l'augmentation des volumes produits en RDC et également en Indonésie a été fatale pour les prix déjà en baisse depuis 2 ans et demi. Ces derniers jours, ils ont atteint leur plus bas niveau depuis 2016, car en plus de cette production minière excédentaire, le marché fait face à une demande qui continue de décevoir malgré l'augmentation des besoins dans le secteur des batteries et dans celui de l'électronique portable. L'évolution des technologies a aussi exacerbé le problème d'offres excédentaires sur le marché. Le groupe CEMOC s'est lui-même inquiété ces derniers mois de voir les batteries LFP, lithium, fer, phosphate, qui ne contiennent pas de cobalt, prendre de plus en plus de place en Chine. Ce qui alimente également l'excédent, c'est le manque de discipline des producteurs et les prix du cuivre. Car le cobalt est notamment un sous-produit de l'extraction du métal rouge. Sa production dépend donc de ce marché-là, plutôt que du prix du cobalt lui-même. Dans ce contexte défavorable, l'Institut du cobalt, qui représente l'industrie, reste optimiste. L'organisation table sur un doublement des besoins dans le secteur des batteries d'ici 2030. En attendant qu'un déficit se fasse jour sur le marché et acte une remontée des prix, le risque pour l'avenir de la filière, c'est que les niveaux de prix actuels découragent les nouveaux investissements, que ce soit dans l'extraction minière ou encore le raffinage.
Marie-Pierre Olfan. RFI, votre grand reportage du jour, 20 minutes de long format, chaque jour sur la radio du monde. Et tout de suite, un extrait de ce qui vous attend aujourd'hui. Ce mercredi, RFI vous emmène en Argentine sur la trace du jaguar. Situé au sommet de la chaîne alimentaire, le jaguar joue un rôle essentiel dans la régulation des écosystèmes. En Argentine, déclaré monument naturel en 2001, le plus grand félin d'Amérique est aujourd'hui au bord de l'extinction avec moins de 250 individus. Sur la piste des derniers jaguars d'Argentine, c'est un grand reportage de Théo Conscience. En voici un extrait.
Il faut s'armer de machettes et de patience pour progresser à travers les arbustes, les ronces et les épines du Gran Chaco.
Il reste moins de 250 individus dans le pays. Les principales menaces qui ont amené l'espèce au bord de l'extinction sont la chasse, la perte de son habitat et la diminution de ses proies.
La déforestation réduit et fragmente le territoire du jaguar et de ses proies. Selon les estimations du Proyecto Chaguarete, il reste à peine une vingtaine d'individus dans la forêt chaquenia. Le travail de Lucero consiste en partie à essayer de les recenser et de cartographier leur territoire.
Les données de la présence du jaguar sont très peu nombreuses. Ils sont en fait dispersés sur une région immense de 7 millions d'hectares. Nous obtenons ces données grâce à la surveillance participative, qui est une stratégie imaginée pour couvrir de grands espaces à moindre coût.
Pour remonter la trace du jaguar, Lucero Corrales s'appuie sur ceux qui vivent et traversent la forêt au quotidien. Professeurs ruraux, policiers, agriculteurs, guides, Ils sont plus de 350 à lui faire remonter des informations sur la présence du jaguar. Un réseau que la garde forestière construit et entretient patiemment au fur et à mesure de ses visites sur le terrain.
Mi nombre es Samuel Isaías Peralta.
Samuel Peralta, 15 ans, est l'un de ses collaborateurs. Employé agricole, il veille sur les bêtes d'un propriétaire terrien seul au milieu de la forêt. Quelques jours auparavant, il a repéré sur le sol une empreinte qui pourrait bien appartenir à un jaguar.
C'était lundi dernier. Le jaguar est passé par là, à l'entrée du chemin. Moi, j'étais sur une mule. Et les mules ont peur des empreintes de jaguar, car elles peuvent sentir leur odeur. Elles la sentent et elles ont peur, car elles savent que le jaguar peut les manger. Quand je suis passé à côté de l'empreinte, ma mule s'est cabrée et a fait demi-tour.
À notre arrivée sur place, l'empreinte a été effacée par la pluie, mais elle était non loin d'un piège photographique que Lucero Corrales a installé quelques mois auparavant. La déforestation n'est pas la seule menace qui pèse sur le jaguar. Bien qu'interdite, la chasse reste la première cause de mortalité pour le félin. Fin juillet, un jaguar a été abattu dans la province de Formosa et ses braconniers ont été arrêtés. Dans le Chaco, ceux qui s'en prennent au jaguar le font le plus souvent par peur. Une peur ancestrale, souvent infondée, qui se transmet de génération en génération.
Ce grand reportage, une rediffusion, aujourd'hui à écouter en intégralité à 12h10, heure de Paris.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Une semaine après Emmanuel Macron, le président Paul Biya a reçu le rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes au Cameroun. Quelle suite faudra-t-il donner à ce travail des historiens ? Qu'attendez-vous de la France et du Cameroun ?
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Tunis, 1987, Bourguiba est renversé et Elias passe par le rituel de la circoncision. Une vie qui se poursuivra en France avec pour objectif la naturalisation. C'est le deuxième roman de Ziad Bakir où il met en scène avec humour sa propre vie. Il sera notre invité.
Sur le Pont des